Vous écoutez RTL.
Il est 14h03 sur RTL, on retrouve les amis de la curiosité. Bonjour.
Bonjour Estelle.
Bonjour Christelle.
Bonjour Anaïs et Thomas. Merci beaucoup. Alors on vous emmène aujourd'hui faire un voyage au Japon, mais dans le Japon authentique, hein, parce que qu'est-ce qu'on entend comme cliché sur ce magnifique pays? Les sushis, le karaoké, les salaryman ivres-morts, les toilettes de l'espace et les trains de tous nos fantasmes. On va tout vous dire sur le vrai Japon tout de suite.
Et tout de suite dans la curiosité sur RTL, on plonge au cœur des zoos humains.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Les humains ont vu partout sur la Terre la même chose, ont porté le même regard sur près de 35 000 exhibés. Au total, au 19e au 20e siècle, c'est près de 1,5 milliard de visiteurs.
RTL.
Ces hommes et femmes étaient mis sur le même niveau que les animaux.
La curiosité est un vilain défaut.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur RTL si vous nous rejoignez à l'instant et peut-être êtes-vous surpris si vous ne nous avez pas écouté hier. J'ai Anaïs Bouton à mes côtés puisque Sidonie Bonnec est partie en congé maternité. Donc on est très heureux d'accueillir Anaïs pour quelques semaines dans la curiosité. Tout va bien Anaïs?
Merci Thomas, oui tout va très bien. On embrasse Sidonie.
On l'embrasse très fort.
Et toute l'équipe avec nous.
Mais oui, et donc dans cette émission aujourd'hui, on va regarder notre histoire en face.
Oui Thomas, avec ces zoos humains qui ont existé pendant 130 ans en Europe, au 19e et dans la première moitié du 20e, on part sur la trace de ceux qui ont subi le déracinement, l'humiliation et souvent la maladie.
Bonjour Victor, Bruno Victor Pugebet, pardon, je suis un peu ému par ce thème. Vous êtes co-auteur du documentaire Sauvage qui sera diffusé samedi soir sur Arte. On va se poser peut-être dans le temps. Anaïs à l'instant disait 130 ans, ça commence quand ces zoos humains?
Bonjour. Bah, cette histoire, elle commence, on va dire, au 15e siècle avec les grandes découvertes du bout du monde, hein, quand il y a les grandes explorations, qu'on découvre les premiers Indiens et qu'on va les ramener dans les cours européennes où ils vont être exhibés devant les cours royales.
Et dans votre documentaire, vous dites 1810-1940, c'est la période principale, c'est ça?
Alors, justement, ça, c'est dans la première partie, ça reste dans les cours royales, ça reste réservé à une élite. Et puis à partir du 19e siècle, ça va devenir populaire. Ça va arriver dans les théâtres, dans les cirques, dans les expositions coloniales. Et c'est comme ça que finalement les gens, à cette époque-là, vont découvrir ce qu'on appelle l'autre. Donc les gens qui viennent du bout du monde et qu'on va qualifier au 19e siècle de sauvages.
Et donc c'est le titre du documentaire « Sauvage ». Ces expositions coloniales, elles existent en France, on va le voir, en Europe, mais pas seulement, un peu partout dans le monde?
Je crois que ce qui est un bouleversant dans ce film et qu'on a essayé de faire ressortir, c'est de montrer que c'est une histoire mondiale. Ça a touché tous les grands pays occidentaux,
mais
pas seulement d'ailleurs,
aussi.
Les Japonais aussi, et que ça a existé sur une période très longue, puisqu'on peut dire que ça va du milieu du 19e siècle jusqu'aux années 40, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et que c'est un phénomène, ça a été très étonnant pour moi en travaillant sur le film, qui a été totalement oublié, qui a été enfoui de nos mémoires, beaucoup parce qu'il y a eu la honte de se dire qu'on a exhibé des gens, et que du coup, en réouvrant ces archives, de voir que notre image de l'autre a été conditionné par le fait de les voir derrière des barrières, et ça a créé une distance et un jugement, et ça a créé le racisme.
Alors en France, on se demande où et par qui le premier zoo humain a été ouvert en fait.
Le grand lieu de l'exhibition humaine a eu lieu à côté de la station au jardin d'acclimatation de Paris, à Neuilly.
C'est pas du tout loin d'RTL, c'est de l'autre côté de l'avenue. En fait.
Exactement, c'est assez émouvant d'ailleurs d'arriver ici et de savoir que c'est à côté. Et en fait, cet endroit existait déjà, c'était un zoo d'animaux qui attirait beaucoup déjà les familles et les enfants. Et puis à un moment donné, les propriétaires ont eu des gros problèmes financiers. Et Geoffroy Saint-Hilaire, qui dirigeait le lieu à cette époque-là, a entendu qu'un grand impresario allemand qui s'appelait Hagenbeck allait faire venir des sauvages du bout du monde. Et il a appris qu'ils arrivaient par le Havre et il a voulu les récupérer pour les exhiber et donc attirer un public qui était excité à l'idée de voir des gens du bout de la terre, puisqu'on n'en voyait pas,
à l'époque. Mais d'où venaient justement ces hommes, ces femmes, ces enfants qui étaient exhibés dans ce zoo?
Alors il y a plusieurs troupes qui ont été exhibées à cette époque-là, on est autour de 1880, donc au 19e siècle. Il y a des Nubiens, il y a des Esquimaux, et puis surtout, et c'est de ça dont on parle dans le film, il y a une troupe de Fujiens, qui arrive de Patagonie, chilien. Et en fait, c'est cet impresario allemand qui s'appelle Hagenbeck qui a entendu parler d'eux, qu'on décrit comme les sauvages les pires de la planète, puisqu'ils vivent avec dans des peaux de bêtes ou même nus. Et donc leur image est celle de cannibales.
Parce que ça, c'est fascinant. En fait, on raconte un peu n'importe quoi. On va raconter l'histoire de ces Amérindiens venus de Patagonie, de la Terre de Feu, en longueur dans un instant. Mais d'une manière générale, on a besoin... C'est un spectacle dont on parle, hein, avec des hommes, des femmes, des enfants exhibés. Donc on raconte n'importe quoi. La presse, les promoteurs inventent des histoires autour de ces personnes, de ces familles.
Bah, les entrepreneurs de spectacle, eux, il faut qu'ils vendent leur attraction.
Mais oui.
Par contre, le public qui vient, lui, il vient par curiosité, il vient pas par jugement. Oui. On leur dit, il y a des sauvages qui arrivent du bout du monde, donc on a envie de les voir. On voyage pas à cette époque. Donc on leur invente... pour que ça soit encore plus spectaculaire, le fait qu'ils soient cannibales, mangeurs d'hommes, ce qu'ils ne sont pas du tout. Et les personnes contrôlent, ni les journalistes de l'époque, ni les scientifiques, qui sont tout contents aussi de venir dans les eaux humaines pour observer ces spécimens qu'ils ne peuvent pas voir dans les pays lointains.
Alors, vous l'avez évoqué, Bruno-Victor Puchebet, dans votre documentaire et dans un article à lire dans le magazine Historia en partenariat avec RTL, il y a l'histoire de ces Amérindiens et notamment d'une petite fille. Elle a seulement 2 ans et demi. Ses ravisseurs l'ont surnommée Petite Capeline. Écoutez.
Petite Capeline est terrorisée. Accrochée au bras de sa mère, elle observe ces hommes qui crient, les bousculent et les forcent à s'entasser pour le voyage. Ils semblent tout droit sortis de ces cauchemars d'enfants.
La traversée en bateau qui va conduire la petite Capeline et ses 10 compagnons vers l'Europe va durer près d'un mois. Les conditions sont terribles. Il fait froid. Ils sont considérés comme des moins que rien par l'ensemble des marins sur le pont du bateau, mais surtout ils ne savent pas où ils vont.
L'histoire tragique de Petite Capeline, c'est dans un instant sur RTL.
RTL.
Avec les eaux humains, le racisme devient populaire, ordinaire. On vient voir le sauvage, toujours plus exotique.
La curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Il se nomme Tombo, aborigène d'Australie. Otabenga, pygmée du Congo. Petite Capeline, fuégienne de Patagonie. L'histoire a oublié leur nom.
On appelait ça des expositions coloniales. On y exposait notamment des hommes, des femmes et des enfants enlevés de force, arrachés à leur terre. On découvre l'histoire de ces eaux humains sur RTL avec le documentariste Bruno-Victor Puchebet. Alors, derrière ces eaux humains, il y avait des producteurs de spectacles. Vous en avez parlé tout à l'heure. Le fameux Karl Hagenbeck. Qui était-il?
C'était un entrepreneur de spectacle allemand qui avait déjà fait fortune en organisant des spectacles d'animaux. Et puis, il sent qu'il y a cette attirance pour découvrir les peuples du monde et se met en tête de faire venir des peuples lointains, plutôt très sauvages.
Passe commande, en quelque sorte, de sauvages à exhiber, c'est ça?
C'est ça. Et donc, il commande à des gens sur place de trouver des troupes, des familles qu'il va faire venir et qu'il va exhiber dans des troupes itinérantes.
Et on sait qui c'était, ces gens sur place, justement?
Alors oui, on a retrouvé dans le film, on a une sorte d'impresario local qui va se charger d'aller les recruter. Ouais. Ce sont des communautés qui sont connues, hein, puisque les colons ont commencé à les tuer pour récupérer leurs terres. Donc certains vivent déjà à l'écart de leur terre. Et donc on va les recruter là-bas. On va recruter une famille. Et parmi cette famille, il y a une petite fille qui va arriver au jardin d'acclimatation et qui s'appelle Petite Capeline.
Alors donc là, on est à l'été 1881. C'est à cette époque qu'une douzaine, c'est ça, d'Amérindiens, de Fugiens, hein, c'est ça, c'est leur...
Les Fugiens de Patagonie.
Voilà, ouais. Fugiens de Patagonie vont être enlevés, parce que c'est le terme, hein, arrachés à leur terre d'origine. C'est un pêcheur qui se charge de les rapatrier. Comment ils traversent, comment ils arrivent jusqu'en France?
Bah oui, en effet, c'est quelqu'un de local qui va les recruter, enfin les prendre de force, et puis qui va les confier à un navire qui va les ramener jusqu'au Havre.
Comment se passe la traversée?
Ah bah la traversée est très dure hein, parce qu'ils ont juste leurs habits, enfin leur peau de bête qu'ils ont avec eux. On leur donne un peu de foin pour qu'ils se tiennent chaud et donc ils ne comprennent rien puisqu'ils ont été capturés de force, ce qui sera plus le cas par la suite.
Alors c'est pendant ce voyage qu'on affuble ces Amérindiens de surnoms, petite Kathleen par exemple, sa maman.
Comment ils sont surnommés les autres?
Alors il y en a un qu'on appelle Féroce, parce que forcément pour que ça impressionne le public, il faut qu'ils apparaissent plus méchants. Comme on arrive mal à mémoriser leur nom, qui parle une langue qu'on ne comprend pas, on appelle la maman de Petite Kathleen Petite Mère. Et puis Petite Kathleen, on lui invente ce nom-là parce qu'on ne connaît pas son prénom.
Parce que c'est ce qu'elle porte en fait.
Oui, exactement. C'est, ouais. C'est ça, une sorte de cape sur le dos.
Alors, elle arrive au port du Havre en 81, qui les accueille. Et ils seront donc exhibés à Paris, au jardin d'acclimatation.
Exactement. Donc c'est Geoffroy Saint-Hilaire, qui est le directeur du jardin d'acclimatation, a entendu que Hagenbeck faisait venir cette troupe de Fugiens, de sauvages, et se dit, j'ai peut-être là la solution de remplir les caisses du jardin qui étaient en déficit, en amenant à Paris pour la première fois devant les familles, les enfants, des sauvages du bout du monde. Donc il trouve un accord avec Hagenbeck, et il les fait venir à Paris, et il va les présenter devant le public en 1880, fin septembre 1880, devant le public.
Et dans quel état sont-ils? Parce que ce voyage a été éprouvant, et notamment cette petite fille, petite Kathleen, elle n'a que 2 ans et demi, je le rappelle. Ils sont fatigués, malades peut-être?
Bah, comme ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, et que le voyage est très long, il faut imaginer qu'il n'y a pas d'avion à cette époque, ils arrivent épuisés, paniqués, et on les met dans un enclos avec des barrières, et les gens viennent les regarder.
Ils leur jettent des pièces, c'est ça?
Certains leur jettent des pièces comme on jette des cacahuètes à un singe pour essayer de les faire bouger, mais ils sont tellement apeurés qu'ils restent autour d'un feu sans bouger, sans faire grand-chose. Et donc les gens essayent, en les interpellant, en lançant des pièces, de les faire bouger un petit peu.
Et petite Kathleen va mourir le 30 septembre 1881. Qu'arrive-t-il à ses parents? Où est-elle enterrée? On va répondre à ces questions dans un court instant sur RTL. Et puis vous verrez que seuls 2 survivants de ces Fuégiens, de ces Patagoniens, reviendront dans leur terre natale, mais ils reviendront porteurs de nouveaux microbes dévastateurs. Et c'est à suivre sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Pourquoi ça a autant de succès? Pour une raison simple. On vient voir des sauvages qui arrivent de contrées extraordinaires, lointaines, et qui fascinent depuis longtemps pour leur exotisme.
RTL.
On va leur demander de jouer aux cannibales alors que ces gens qui étaient exhibés n'étaient absolument pas des cannibales. C'est du cinéma, en fait, qu'on leur demande.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Extrait du documentaire Sauvage, diffusé samedi 20h55 sur Arte. On est toujours avec le co-réalisateur de ce documentaire, Bruno-Victor Pujbet. Il y a aussi cet article en partenariat avec RTL dans le magazine Historia pour découvrir l'histoire de ces zoos humains. Donc, hein, exposition coloniale, c'était l'enrobage, on va dire, dans lequel on exhibait notamment ces familles, ces femmes, ces enfants, ces hommes. Ça a duré près d'un siècle et demi, et même beaucoup plus, puisque vous disiez que ça remontait...
Jusqu'en 1940.
Oui, ça a duré jusqu'en 1940, très, très, et vous disiez que ça avait démarré au 15e siècle. Mais disons que la période principale, Bruno-Victor Pujbet, c'est entre 1810 et 1940. Certains sont devenus des stars parmi, malgré eux. Dans votre doc, il y a par exemple Tambo, il est aborigène. Où est-il exhibé et qui l'affuble de ce surnom?
Alors aux États-Unis, il y a un entrepreneur de spectacle et directeur de cirque très connu qui s'appelle Phineas Taylor Barnum, le fameux cirque Barnum, celui qui invente le cirque à 3 pistes, qui déjà depuis pas mal d'années, au milieu de ses spectacles, présente des freaks, ces monstres.
La femme à barbe, il y a eu un grand film.
Les sœurs siamoises, etc.
L'homme
etc.
le plus grand du monde, etc. Oui. etc.
Que aujourd'hui, on qualifierait de personnes handicapées d'ailleurs. Et il entend parler de ses exhibitions en Europe. Il a entendu parler que Karl Hagenbeck en Europe avait fait venir des Fugiens, entre autres, pour les montrer au milieu de ces animaux. Il veut faire la même chose. Il se dit, ça va attirer les foules. Il y a toujours cette idée que on ne connaît pas le bout du monde, on voyage pas. Et donc, on veut voir ces peuples premiers. On se dit, mais comment sont les sauvages du bout du monde? Et donc, il a passé une commande pareil, comme l'avait fait Hagenbeck en son temps, pour recruter des aborigènes qui sont considérés comme les peuples les plus retardés de la planète. Et on les présente comme des cannibales, mangeurs d'hommes, rétrécisseurs de têtes. Et donc, s'ils les amènent, forcément, ça va effrayer, séduire le public qui auront des frissons devant ces sauvages du bout du monde. Et donc,
Il va présenter Tambo.
Et l'histoire de sa dépouille, pardon Anaïs, mais l'histoire de sa dépouille est aussi édifiante, effrayante. Pourquoi ?
Alors parmi eux, on parle dans cette troupe, il y a un dénommé Tambo. Et ce Tambo va mourir pendant sa tournée, puisqu'ils font le tour complet des États-Unis. Et l'entrepreneur de spectacle qu'il a fait venir, Cunningham, qui travaille pour Barnum, va vendre son corps à un magasin, une sorte de petit musée, et qui va l'empailler pour pouvoir le présenter empaillé au public dans les foires.
On l'a retrouvé d'ailleurs.
Exactement. Et donc la tournée a continué. On a perdu la trace de Tambo jusqu'à les années 2000. Et un jour, en cassant un mur de cette ancienne boutique, ils ont retrouvé le corps empaillé de Tambo dans un mur.
Alors, c'est une enquête bouleversante, ce film, parce que vous êtes sorti des chiffres de la grande histoire et que vous avez retrouvé des hommes, des femmes, des enfants. Vous mettez en chair et en os, si j'ose dire, des destins humains inouïs et des gens qui finissent empaillés, quand même.
Bah, c'était important pour nous de montrer que cette grande histoire, ça aurait pu être notre frère, notre tante, quelqu'un de la famille, comme l'ont vécu ces peuples du bout du monde. En fait, on a cherché à les déshumaniser, même dans la manière de les photographier. Une des difficultés du film, c'est que la plupart du temps, ils sont photographiés en groupe. Il y a très peu de gros plans. Donc, on a fait une grosse enquête pour retrouver des portraits, pour retrouver des photos, remonter leur parcours et les réhumaniser. Et entre autres, le film permet d'avoir des gros plans qu'on n'avait pas. Et du coup, tout d'un coup, derrière les visages, il y a une petite fille. Il y a l'histoire affreuse d'un Tambo qui est fini empaillé. Et puis, il y en a d'autres destins, puisqu'il y en a 6 dans le film.
Et justement, je voudrais qu'on boucle le destin des Amérindiens, parce qu'on parlait de petite Kapline. Il y a deux des membres de ce groupe qui ont survécu, qui reviennent sur leur terre, donc en terre de feu, en Patagonie. Dans quel état et avec quelles conséquences?
Après la mort de petite Kapline, sa mère a dû partir, continuer la tournée en Allemagne. Et puis les gens de la troupe sont tombés malades. Et du coup, à un moment donné, c'était plus rentable, ils étaient minables à voir. Et donc Hagenbeck a décidé de les rapatrier au Chili. Le problème, c'est qu'ils ont ramené une maladie pulmonaire qui a contaminé l'ensemble de leur communauté. Tant et si bien que dans les années 1960, l'intégralité des descendants de Fujian ont disparu.
Voilà, ce peuple n'existe plus.
C'est pour ça qu'on n'a pas de descendants dans le film.
Ouais. Et ces eaux humains, ils ont heureusement fini par fermer, on l'a dit, pendant les années 40. On va vous expliquer pourquoi juste après la pause sur RTL. Et puis, second thème de curiosité, on change d'univers, on part au Japon pour aller au-delà des idées reçues.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et sur RTL, on vous raconte l'histoire de ces eaux humains, l'histoire de ces femmes, de ces enfants, de ces hommes arrachés à leur terre, exhibés et humiliés par les grandes puissances colonisatrices. Bruno Victor Pujbet, je rappelle que vous êtes réalisateur d'un documentaire sur ce thème qu'on verra samedi sur Arte. On va boucler l'histoire. Quand, pourquoi ces eaux humains ont-ils fermé?
À un moment donné, les gens se sont lassés. En fait, on venait voir dans les expositions coloniales des villages reconstitués dans lesquels les gens faisaient un peu toujours la même chose. C'était des villages artisanaux, entre la première période où c'était des sauvages et après la présentation par les empires comme des indigènes. Ça a lassé les gens. Et puis, il y a eu une énorme polémique en 1931 avec des Kanaks qui, en fait, étaient dans leur pays des professeurs, des maîtres d'école, enfin des postiers qu'on a présentés comme des sauvages et des cannibales. Et les anciens coloniaux de Calédonie ont dit « mais c'est faux ». Donc ça a créé une énorme polémique qui a mis fin, entre autres, à cette histoire. Et puis surtout, il y a l'arrivée du cinéma parlant avec King Kong, Tarzan, qui va rendre ces sauvages encore plus spectaculaires. Et les gens vont aller au cinéma.
Et bien voilà, ça boucle l'histoire. Il faut regarder votre documentaire
bouleversant.
Bruno Victor Pujbet, co-signé, on va rappeler le nom du co-réalisateur
et historien Pascal Blanchard.
Voilà, Pascal Blanchard qui signe l'article du magazine Historia. Et donc ce documentaire est à voir samedi 20h55 sur Arte. Merci beaucoup.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.